Merci d'écouter Radio Okapi, il est 18h à Kinshasa, c'est l'heure du journal. Ouverture ce jeudi à Kinshasa du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Au menu, l'évaluation des engagements pris par les pays signataires sur la paix, la sécurité et la coopération de la RDC et la région des Grands Lacs. Des véhicules escortés par les FRDC et les casques bleus ont été attaqués mercredi et jeudi matin par des rebelles ougandais du EDF à Luna et à la limite avec le Nord Kivu. Bilan, 7 morts, des personnes enlevées et l'incendie de plusieurs maisons. Notre invité, c'est Bagamba Arali, ce docteur en linguistique qui enseigne à l'Université Shalom et à l'ISP Bounia, parle de la promotion des langues maternelles et nationales en RDC. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Mimi Kindou. Ouverture ce jeudi à Kinshasa du 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Au menu, l'évaluation des engagements pris par ces pays signataires sur la paix et la sécurité, mais aussi la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Parmi les invités aux assises de Kinshasa, le président angolais João Lourenço, l'ougandais Yoweri Museveni Kaguta, le Burundais Evariste Ndayishimiye, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a rappelé qu'à l'entrée en fonction, il avait exprimé sa volonté de restaurer la paix à l'est du pays. On l'écoute.
La persistance de l'insécurité ne devrait nullement occulter les efforts encourageants fournis ces dernières années pour renforcer la confiance entre les pays de la région et ainsi avancer vers une meilleure coopération diplomatique et sécuritaire. Ma volonté de voir éclore un environnement de paix et de stabilité à l'est de mon pays m'a mené, dès ma prise de fonction, à entamer une diplomatie de la main tendue et du dialogue vis-à-vis des pays de la région avec lesquels nous partageons des frontières communes. En faisant du mécanisme national de suivi de l'accord cadre de l'Addis Abeba l'une des clés de voûte de cette action, j'ai tenu à réitérer l'engagement pris par la République démocratique du Congo d'œuvrer dans le sens d'annihiler les menaces posées à la paix et à la stabilité envers la région et envers elle-même. C'est notamment dans la défense de cet intérêt national aux implications régionales que certaines avancées ont pu être observées. Parmi elles, on peut citer, entre autres, les bons offices fournis en 2019 par la République démocratique du Congo aux côtés de la République d'Angola dans le processus de dialogue amorcé entre la République de l'Ouganda et la République du Rwanda dans le but de préserver la paix et la concorde entre les deux peuples.
Le président de la Commission de l'Union africaine a invité les participants au sommet de Kinshasa à s'interroger sur la réalisation des engagements pris à l'égard de la RDC. Moussa Faki Mahamat a en outre souligné qu'il importe maintenant de faire un bilan de vérité et non celui d'esquiver des vraies interrogations. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jean-Francis Mouya.
Ce 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre est non seulement l'occasion d'évaluer le chemin parcouru, mais aussi d'apporter les correctifs indispensables pour le futur. Se pose ici, à nous tous, l'inévitable question de nos responsabilités respectives. Avons-nous honoré nos engagements vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Les élites de ces géants, longtemps en tourmente, ont-elles été en situation de donner le meilleur d'elles-mêmes à la patrie de Lumumba? Le bilan qu'il nous faut faire doit être un instant de vérité, réduite à la rédemption de ces grands pays et non celui de l'esquive des vraies interrogations. Je me réjouis ici du rôle stabilisateur joué par les Nations Unies en RDC, à travers la MONUSCO, à laquelle je voudrais rendre un franc et chaleureux hommage. Je salue aussi l'engagement personnel du secrétaire général Antonio Guterres.
Autre nouvelle, en Ituri, un convoi de véhicules escortés par les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO a été attaqué mercredi par des rebelles ougandais l'EDF à Luna, centre commercial et administratif situé à la limite avec la province voisine du Nord Kivu. Selon des sources concordantes, deux autres attaques ont été signalées hier soir à Luna et ce jeudi matin à Ndalia sur la route nationale numéro 4. Le bilan provisoire fait état de trois morts, des personnes enlevées et l'incendie de plusieurs maisons. Le récit de Isaac Remoyope.
L'attaque de ces convois de véhicules qui quittaient Komanda pour la province voisine du Nord Kivu s'est déroulée mercredi vers 10h. Les rebelles ADF ont ouvert les feux sur les passagers. Les FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, ont riposté immédiatement. Selon des sources locales, il n'y a pas eu de victimes. Ces rebelles sont encore revenus le soir dans la même localité de Luna en tirant plusieurs coups de feu. Une femme est morte et deux autres personnes ont été kidnappées par ces inciviques. Ces derniers ont également incendié une maison de commerce avant de se retirer. Cette double attaque dans la même journée a entraîné le déplacement de la population vers Eringeti dans la province voisine. Ce jeudi, un groupe de ces rebelles a tendu une embuscade contre des usagers des routes vers Ndalia. Un motard et son client ont été tués par ces hommes armés. L'ONG de défense des droits de l'homme CRDH déplore les faibles effectifs des FARDC sur les tronçons Luna Ndalia Mambelenga sur la RN4, ce qui, selon cette organisation, justifie l'activisme de ces groupes armés. Son coordonnateur demande au gouvernement d'installer une base des FARDC à Luna pour dissuader ces rebelles. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'EDF a été signalée mercredi à Luna, à la limite des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, d'où les déplacements massifs des habitants vers Eringeti, voire Oicha. À Beni, Marc Marofimo.
L'attaque, d'après les sources de la société civile, a eu lieu à 20h locale dans la zone de Luna, précisément à Kabrike, où une femme a été tuée et plusieurs maisons incendiées. Du coup, les populations ont fui la même nuit en direction de Ringeti, plus ou moins 5 km du lieu d'attaque. Ce jeudi matin, des coups de feu se feraient toujours attendre vers Kabrike avec l'arrivée des FARDC, souligne nos sources. Ainsi, les déplacés, dont certains ont passé nuit à la Belle Étoile, seraient visibles le long de la route Ringeti où ils observent la situation. Par contre, d'autres habitants motorisés ont pu se déplacer jusqu'à Oicha, chef lieu du territoire de Beni, 40 km de Luna, nous confirme le bourgmestre de la commune rurale de Oicha. Nicolas Kikuku indique que ces derniers viennent de s'ajouter aux autres déplacés récents qui vivent pour certains en famille d'accueil et d'autres dans les camps de déplacés. Nicolas Kikuku plaide pour une intervention humanitaire afin de soulager la souffrance de ces déplacés. Il appelle aussi l'armée à redoubler d'efforts pour faire ramener la paix dans la région et permettre aux déplacés de regagner leurs milieux respectifs. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Santé à présent. Au Lualaba, l'usine à chaud de la compagnie TFM de la multinationale China Molybdenum influe négativement sur l'environnement et la santé des habitants du village de Kabombwa et Furungume. C'est ce que révèle en tout cas le rapport de l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe dans un rapport qui a été publié le 22 février. Le directeur du programme affirme que les résultats des analyses sont préoccupants. Les habitants de la zone souffrent d'irritation cutanée, de problèmes respiratoires, de pollution de l'eau et de l'air. Au Nord Kivu, pendant 7 ans, 864 enfants soignés des malformations congénitales ont été remis ce jeudi matin à leur famille par l'ONG Hope Walk ou Espoir de Marché en collaboration avec Heal Africa. Un échantillon d'une dizaine d'enfants a été présenté à l'occasion en présence de leurs parents. À Goma, Mathieu Ilunga Chamboui.
Tous les parents, remplis d'une joie intense, n'ont pas caché leurs sentiments en voyant leurs enfants, autrefois handicapés de la malformation congénitale, ne pouvant pas marcher sur les plantes de leurs pieds. En ces jours, ils marchent correctement et peuvent porter les souliers comme les autres aux pieds normaux. Écoutez la maman de Simplice qui a vécu le pur.
Ça me faisait toujours mal. Je me disais non, j'avais pas la paix. Ce n'était pas facile, ça a pris beaucoup de temps. Chaque semaine, on changeait les plâtres. Presque 7 semaines, on a donné les souliers. On a commencé à mettre les tapis dans les souliers. On nous a obligés à acheter un modèle de souliers que l'enfant devrait porter. Et puis, ça a marché. Les résultats sont très bons. Donc, personne ne peut savoir s'il était malade. Je vais sensibiliser tous les parents qui ont des enfants comme ça. Oui, parce qu'il y a d'autres qui rejettent les enfants. Il y a d'autres aussi qui peuvent se suicider.
Pour le médecin directeur de l'hôpital Heal Africa, qui collabore avec Hope Ox, les parents qui ont reçu les enfants traités pendant plus ou moins 5 ans doivent servir de sensibilisateurs pour ceux-là qui gardent encore les enfants handicapés de pieds beaux à la maison. Docteur Serge Kahatwa.
Oui, surtout je parle à ceux qui sont dans les communautés de ne pas stigmatiser ces enfants-là. Et j'encourage tout le monde de dire à tout le monde que même s'il y a une malformation, on peut faire notre part comme médecin, comme hôpital, et on peut avoir un bon résultat.
Goma, Mathieu Ilunga Chambou. Radio Okapi.
Au Maniema, plus d'un million de personnes, soit 54% des ménages, sont exposés ces jours-ci à l'insécurité alimentaire. Révélation faite hier à Kindu par l'Institut national de la statistique lors de l'atelier d'analyse de l'évaluation de la sécurité alimentaire des ménages en situation d'urgence. Ces assises de Kindu ont été organisées par le ministère provincial de l'Agriculture en collaboration avec l'Institut national de la statistique et le programme alimentaire mondial PAM. Le territoire le plus exposé, c'est Kabambare. Reportage à Kindu de Florence Kizalunga.
Selon Innocent Kadekere, directeur de l'INS Sud-Kivu, ces données collectées en août 2021 montrent que parmi ces 54%, 26% des ménages sont en insécurité alimentaire sévère. Trois territoires de la province sont plus touchés.
Les territoires les plus exposés, qui ont une proportion supérieure à la moyenne de la province, nous avons le territoire de Kabambare qui a 69,4%, alors que la moyenne de la province est de 54%. Du territoire de Punia qui est à 68,0%, c'est largement supérieur aussi à la moyenne provinciale qui est de 54%, et Lubutu qui est à 58,1%, est largement aussi supérieur à la moyenne provinciale qui est de 54%.
Mais qu'est-ce qui est à la base de cette insécurité alimentaire? Innocent Kadekere répond.
Il y a les causes conjoncturelles, dont les chocs subis par les ménages, la persistance des poches de l'insécurité, il y a l'effet de la pandémie. De la COVID-19. Il y a les maladies des plantes, diverses maladies de bétail, la destruction des cultures par les animaux sauvages.
Les gouverneurs intérimaires appellent à la mobilisation de tous pour lutter contre ces fléaux. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Revenons en Ituri où environ 6000 personnes sont recrutées par le Fonds social de la République comme main-d'œuvre pour les travaux d'entretien des rues dans les différents quartiers de la ville de Bounia et à l'intérieur de la province. Selon la chef d'antenne de ces services publics, c'est dans le cadre du projet STEP 2 qui a pour objectif de fournir une aide financière aux personnes vulnérables affectées par les conflits voici 4 ans. À Bounia, la correspondance de Clarisse Zindoula.
Depuis le 15 février dernier, ces hommes et femmes sont déployés chaque matin dans les 24 quartiers de la ville de Bounia pour aplanir des rues. Parmi eux, des déplacés de guerre qui ont fui les atrocités des groupes armés. Pour ces bénéficiaires, ce recrutement est une opportunité pour la survie de leur famille qui peinait à nouer les deux bouts du mois. L'un d'eux, père de famille et désœuvré depuis plusieurs années, exprime sa gratitude.
En fait, je suis content de ce que Fonds social a fait pour nous. On doit aider nos familles, nos parents, nos enfants, avec un peu que nous allons trouver ici. Nous sommes reconnaissants envers le chef des fonds sociaux.
Selon les autorités de la ville de Bounia, ce projet contribue également à améliorer la sécurité au chef-lieu de la province. Les rues entretenues et dégagées vont faciliter l'accès rapide des forces de l'ordre pour des interventions de secours en cas de danger. Le bourgmestre de la commune de Bounia, Jean-Marie Fouamba.
Ça pourra nous permettre, service de sécurité, de se rendre sur les lieux. Ils ont la facilité d'intervenir au moment opportun. Donc c'est une bonne affaire, nous avons salué cette intervention du Fonds social.
Signalons que ces travaux d'entretien de route vont durer 5 mois pour un coût total d'environ 450 millions de dollars pour 5 provinces de la RDC. Bounia, Clarisse Zindoula, Radio Okapi.
Et puis l'archevêque métropolitain de Lubumbashi salue le rôle joué par la Radio Okapi dans la consolidation de la paix en RDC. Il a dit à l'occasion du 20e anniversaire de cette radio onusienne. Monseigneur Fulgence Muteba invite Radio Okapi à continuer à informer objectivement la population pour l'enracinement des valeurs démocratiques. Ce prélat est au micro de Jean Gandou.
Je considère aussi que le fait de mettre les Congolais en dialogue permanent, de mettre les Congolais devant leurs responsabilités pour qu'advienne la paix dans notre pays, c'est vraiment un plus pour Radio Okapi. Je continuerai de soutenir ce média et je l'encourage à poursuivre cette quête inlassable de la paix. C'est quelque chose qui apporte beaucoup d'espoir à la population congolaise. J'ai collaboré avec Radio Okapi dans le passé et je continue encore à collaborer avec elle, surtout pour, n'est-ce pas, faire passer le message de paix, mais aussi le message de démocratie et de la protection de l'environnement. Je félicite ce média. Je lui demande d'embrayer davantage dans le sens des investigations de terrain pour apporter une information vraie, vérifiable, mais aussi de sortir un peu d'une espèce de neutralité activités diplomatiques pour aborder des questions avec un peu plus de force, avec un peu plus d'objectivité et ainsi de continuer à éduquer à la paix et à la démocratie.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, la commission qui avait été mise en place début février pour plancher sur le projet de charte de la transition vient de remettre son rapport à la présidence après 2 semaines de travail. Cette commission proposerait une transition de 30 mois avant l'organisation des élections générales au pays. Les 4 membres du personnel de la mission des Nations Unies en Centrafrique qui étaient arrêtés à l'aéroport de Bangui viennent d'être libérés. Annonce faite ce jeudi matin sur Twitter par le chef de la MINUSCA, Monker Ndiaye. L'information a été confirmée par l'ambassade de France à Bangui. Et puis, Moscou a déclenché hier soir une opération militaire en Ukraine. Des tirs d'artillerie ont été entendus dans les grandes villes du pays. Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et l'OTAN menacent la Russie de lourdes conséquences. De son côté, la Chine a affirmé aujourd'hui suivre de plus près la situation et refuse cependant de parler d'invasion.
L'invité.
Notre invité, c'est Baganba Arali, ce docteur en linguistique qui enseigne à l'université Shalom et à l'ISP Bounia en Ituri, parle de la promotion des langues maternelles et nationales en RDC. Il s'entretient avec Clarisse Zindula.
Baganba Arali, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur de la sociolinguistique à l'université Shalom de Bounia. Pourquoi c'est important pour les êtres humains de parler la langue maternelle?
Oui madame, la langue maternelle est très 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 importante pour toute personne et surtout pour les communautés. Tout d'abord, ce sont les langues qui permettent aux personnes de mieux s'exprimer, de se faire dire exactement ce qu'ils veulent dire. Et deuxièmement, ce sont des langues qui permettent les cohésions communautaires et aussi, quand on parle mieux sa langue, ça vous permet aussi de bien apprendre d'autres langues.
Concrètement, c'est quoi la langue maternelle? En quoi est-ce qu'en fait la langue maternelle est différente d'un dialecte?
Oui, la langue maternelle, par définition, c'est la première langue qu'on a parlé, donc c'est la langue qu'on a apprise en famille. Et ici, chez nous, en Afrique, ça se confond avec les langues donc d'héritage culturel. Donc c'est la langue de la communauté d'où on est, de manière que chez nous ici, la langue maternelle, les langues maternelles des gens se confondent avec les langues de leurs ethnies. Mais la notion de dialecte, c'est une autre notion. Un parler peut être dialecte par rapport à la langue. Donc ce sont de parler d'une même langue, ou qui peut être soit dialecte standard, soit juste une variété. Donc comme je disais que scientifiquement parlant, la langue maternelle, c'est la première langue apprise, c'est la langue qu'on maîtrise le mieux par rapport à toute autre langue. Et généralement, c'est la langue qu'on a parlé en famille. Mais ici, chez nous, lorsqu'on parle de langue maternelle, les gens pensent aux langues de leur ethnie, parce que ces langues leur donnent accès à la solidarité ethnique. Mais généralement, donc lorsqu'ils ne peuvent pas parler la langue de leurs parents, la langue de leur ethnie, ils se trouvent coupés de leur milieu social. C'est la raison pour laquelle, chez nous, la langue maternelle se confond avec la langue de l'ethnie.
Alors, que faut-il faire pour lever cette confusion?
Oui, nous enseignons à l'ISP, à Shalom, pour que les gens puissent avoir cette différence-là. Et nous demandons aussi aux parents d'aider leurs enfants à apprendre la langue de leur ethnie. Parce que vous pouvez parler le français à votre enfant, ça peut être la première langue apprise en famille, mais nos enfants ne maîtrisent jamais correctement le français parce que les parents eux-mêmes n'ont pas bien maîtrisé le français. C'est la langue d'autrui, nous maîtrisons juste des bribes, peut-être assez pour enseigner, ainsi de suite, mais jamais on atteindra le niveau des locuteurs natifs de français, jamais on atteindra le niveau des locuteurs natifs de l'anglais, raison pour laquelle nous encourageons les parents à parler la langue de leur ethnie en famille. Ce sont les langues que le parent maîtrise le mieux, et dès que les enfants maîtrisent très bien cette langue en famille, ça permet aux enfants de bien apprendre d'autres langues, comme la langue nationale Swahili, Chiluba ou Lingala, et les langues de communication de la connaissance, comme le français, l'anglais, parce que ça donne aux enfants ce que nous appelons la notion de la grammaticalité. Donc, une fois que tu sais très bien parler une langue, ça te permet de dire que les langues doivent être parlées d'une manière correcte. Mais les enfants qui grandissent, par exemple, à Bounia, à trait de parler quelque chose qui ressemble au Swahili, qui peuvent dire « mutoto, batoto, bamutoto », et quand ils prennent le français, ils prennent aussi la grammaire de français avec légèreté, parce qu'ils n'ont pas une idée que la langue devait être parlée correctement.
Comment jugez-vous la politique du gouvernement en matière de promotion de la langue maternelle?
Au début, là, dans les années 70, le Zaïre a eu l'une des meilleures politiques linguistiques du continent. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est fait pour soutenir cela. Parce que notre constitution dit que nous avons la langue officielle, nous avons les langues nationales et les autres langues constituent le patrimoine du pays et l'État les protège. Et on n'a jamais fait une loi qui puisse dire comment on va protéger les autres langues qu'on appelle ici, donc les langues maternelles des communautés. Même pour les langues nationales maintenant, on n'applique pas très bien la constitution. Vous sentez maintenant que les enseignants de Swahili, le Lingala, commencent à devenir rares parce qu'il n'y a pas assez de temps pour leur apprendre ce langue. Donc l'État, pour appliquer la constitution, doit mettre les moyens de protection des langues maternelles.
Bagambara Ali, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Bagamba Ara Ali, docteur en linguistique et enseigne à l'université Shalom et à l'ISP Bounia. Il parlait de la promotion des langues maternelles et nationales au micro de Clarisse Zindula. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Retrouvez-le sur www.radiookapi.net.